à voix nue. Toute cette semaine, Lydia Benitzak rencontre Jacques Testard. Ce soir, Jacques Testard, un naturaliste en herbe.
Jacques Testard, après des recherches sur les conditions physiologiques de la fécondité, chez l'animal d'abord, puis chez l'homme, c'est grâce à vos travaux que naît, en 1982, Amandine, issue de la première fécondation in vitro en France. Vous êtes donc le père scientifique du premier bébé éprouvette français et vous posez très tôt un regard critique sur les pratiques effectives des technosciences, de plus en plus assujetties au libéralisme le plus dépourvu d'éthique. Pour éviter qu'un eugénisme insidieux ne modifie l'humain et que le monde ne devienne un laboratoire génétiquement modifié, rempli de nanoparticules non maîtrisées et irradiées volontairement et involontairement, vous êtes un homme engagé qui en appelle à une science citoyenne fondée sur la société civile, porteuse d'intérêts non marchands, afin que le citoyen se réapproprie les choix que l'on fait en son nom. Pour ce premier entretien, Jacques Testard, nous allons revenir aux origines de votre parcours. Alors, comment vous êtes arrivé vers la biologie ?
Ben, naturellement, je peux dire, parce que c'est-à-dire comme un naturaliste. J'ai été très sensible. Il y a des enfants comme ça qui sont sensibles à la nature. Je ne sais pas si c'est génétique, mais il y a une certaine proportion d'enfants. On les reconnaît très vite. Dès l'âge de 3-4 ans, ils ont une espèce de passion pour le monde animal, végétal, pour toutes les petites bêtes qui bougent dans l'herbe. Bon, parfois ça passe à la puberté, et puis il y en a qui continuent. C'était mon cas. Donc moi, j'étais un trappeur de banlieue. J'habitais dans ce qu'on appelle maintenant le 9-3, et à ce moment-là, à 10 km au nord de Paris, près de ma maison, il y avait un champ énorme. Bon, il y avait aussi des jardins, mais il y avait un champ énorme dans lequel il y avait 3 vaches, parce qu'il y avait une ferme où on allait acheter le lait. Bon. Donc, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Et dans cet univers-là, j'étais vraiment comme un trappeur, comme je lisais dans les romans. Et ma grande passion, c'était d'observer, mais beaucoup plus de capturer. Alors c'est une notion sur laquelle j'ai réfléchi depuis, parce que je ne ferais plus ça aujourd'hui, capturer des bêtes comme... Les naturalistes, c'est des gens qui apprennent sur le vivant, observent le vivant un peu par passion, mais qui souvent capturent aussi. C'est des gens qui vont épingler des papillons dans des boîtes, qui vont disséquer des grenouilles, toutes sortes de choses. C'est peut-être en ça qu'ils se différencient des écologistes. C'est-à-dire que l'écologiste est quelqu'un qui respecte la nature. Le naturaliste est plutôt quelqu'un qui veut la maîtriser. Il y a une différence. Mais je pense que les écologistes ont commencé par être naturalistes. Disons qu'ils sont les héritiers des naturalistes. Donc ma passion, c'était d'observer et de capturer. Déjà, je me posais cette... Il y a quelque chose d'étrange... Quand on est dans un univers comme ça, dans un champ par exemple, là il s'agissait d'un champ qui veut faire un peu plus d'un hectare, bon, avec de l'herbe, avec des chardons, avec des machins, même pas d'arbres d'ailleurs, et c'était plein de bestioles, donc moi j'étais passionné, mais pour moi ça représentait la nature en entier. Et c'est un peu pareil que, je sais pas, un type qui va chasser l'éléphant ou qui va attraper les marmottes ou les castors, c'est un univers, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de taille, c'est un peu comme les fractales en physique. On retrouve plusieurs strates. Et le trappeur, par exemple, professionnel, s'intéresse à des animaux qui sont de sa corpulence ou un peu plus petits, mais des choses quand même des bêtes de taille déjà. Et le naturaliste est plutôt quelqu'un qui s'intéresse aux toutes petites bêtes, parce que c'est quelqu'un qui vit surtout en Europe. Et donc, qui s'intéresse près de chez lui, aux abeilles, aux papillons, aux mulots, aux petites bêtes qu'on peut trouver partout. Et j'ai imaginé qu'il y avait encore une autre taille inférieure, et c'est celle qui m'a occupé après, c'est de s'intéresser aux gamètes. On est toujours dans le vivant, mais cette fois, on est dans des cellules émises par des animaux ou des humains, et donc on est à un niveau inférieur, si vous voulez. On peut passer, donc on pourrait dire, de l'ours, de la marmotte, tout ça, c'est le niveau le plus grand. Ensuite, la nature peut se comprendre, mais comme un tout, ça veut dire que c'est comme si elle ne dépendait pas de l'autre, comme si elle était indépendante. C'est ça que je trouve étrange. Des petites bêtes courantes qu'on a dans les champs en France. Et puis, ensuite, on retrouve des éléments naturels qui, là, ne sont pas des êtres vivants, vraiment, mais qui sont des cellules vivantes. Et ça, ça m'a intéressé aussi. Et puis, si on va aller plus loin, et là, je ne m'y suis pas trop intéressé, mais eh bien, on en arrive à la molécule. Et on n'est plus, là, je crois, dans la nature, parce qu'on n'est plus dans le vivant. Les molécules contribuent à fabriquer du vivant, mais une molécule est inerte. Alors qu'un spermatozoïde est vivant, par exemple. Donc, moi, je vois ces strates-là, et ce que je trouve étonnant, c'est que chacune peut suffire à faire un univers dans lequel on considère la biologie, la vie, la nature, à un niveau qui est celui où on peut l'appréhender, là où on est, assez facilement. Donc, moi, mon niveau d'appréhension, c'était ça, c'était le champ, région parisienne. Et c'est fou ce qu'il y a comme bestiole là-dedans. Et je pensais à ça parce que il y a des très belles pages dans Rostand, Jean Rostand, sur tout ce qu'on peut trouver sous une pierre, par exemple, dans un jardin. On va trouver des cloportes, des mille-pattes, on trouve toutes sortes de bestioles, des limaces, que les gens n'imaginent pas du tout. Et il y a une richesse. Si vous regardez dans un mètre carré de terrain, dans un endroit qui n'est pas une autoroute, mais qui peut être une berge d'autoroute, vous prenez un mètre carré, vous prenez une loupe, et vous gratouillez un peu, vous cherchez vraiment partout, millimètre par millimètre, mais vous allez trouver des milliers de représentants du monde vivant, végétal ou animal. Donc, c'est tout à fait impressionnant. C'est comme un microcosme. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle comme ça. Et il y a autant de variétés que dans... qu'on peut avoir quand on se situe à un niveau du visible immédiat, des bêtes plus grosses, il y a autant de variétés et c'est aussi fascinant. Et la plupart des gens peuvent être fascinés davantage par les bêtes plus grandes, ils vont dans les parcs zoologiques, ils vont faire des safaris photos, mais je ne vois pas de gens qui vont faire ça, de gratouiller comme ça dans leur jardin pour voir les bestioles. Je crois que le naturaliste, c'est celui-là, il a ça dans la peau et à n'importe quel niveau de cette échelle, de visibilité du vivant, il peut s'intégrer et il peut trouver son pied, quoi.
D'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de nous recevoir chez vous, Jacques Testard. On peut constater votre talent indéniable pour le jardinage.
J'ai fait une école de jardinier, j'ai un diplôme de jardinier, mais c'est pas vraiment là que j'ai appris, c'est plutôt un goût. Je dois dire que j'ai plus de goût pour les animaux que pour les plantes. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des pots de fleurs que des cages avec des bêtes. Et puis, c'est aussi maintenant de mettre des animaux en cage, c'est quelque chose qui est quand même qui pose des problèmes de conscience, qui n'en posait pas à mon époque. Hein. Pourquoi je fais cette différence entre le naturaliste et l'écologiste ? J'ai commencé naturaliste, je finis plutôt écolo, c'est-à-dire pas seulement... Bon, maîtriser le vivant, c'est une idée qui m'est passée, mais qui m'a occupé beaucoup, comme tous les naturalistes. Maintenant, c'est le comprendre et comprendre qu'on fait partie du même monde. Et ça, autant que je m'en souvienne, quand j'étais gamin, je ne faisais pas partie du même monde que les bêtes. J'étais émerveillé par la variété, par... quand on regarde les ailes d'une mouche, par exemple, une patte d'araignée, mais de près, avec une loupe, ce qui est facile à avoir, c'est absolument fascinant. C'est d'une beauté terrible et d'une complexité, déjà rien qu'un petit organe. Alors quand on voit une bête entière, qui peut être une abeille, n'importe quoi, un lézard, une bête entière et qu'on la regarde, on observe aussi son comportement, ça laisse vraiment songeur sur cette complexité. Donc moi j'ai eu cette fibre et je l'ai gardée, mais j'ai changé ma pratique.
Alors vous rencontrez très tôt la figure de Jean Rostand, qui vous fascine surtout par ses écrits et qui justement évoque cette admiration enfantine, ce droit d'être naturaliste et lui-même est un petit peu assis sur les épaules d'un autre géant qui est Jean-Henri Fabre.
Oui absolument, je crois que j'ai lu Fabre avant de lire Rostand d'ailleurs. Et Fabre, pense que Rostand a une autre carrure aujourd'hui, et d'ailleurs on peut lire Rostand. Fabre, aujourd'hui, les gens l'accepteraient pas bien, on le prendrait comme un poète, ça va bien, mais c'est vrai que c'est un peu mystique, c'est un peu, il est vraiment dans une espèce de magie, peut-être de fétichisme, quelque chose comme ça. Mais il décrit les bêtes merveilleusement, puis il raconte des expériences. Je me souviens des expériences pour voir comment un bousier va être capable d'apporter la boule qu'il a fait avec la bouse de vache jusqu'à un trou. Enfin, il décrit des procédés, c'est de la recherche. Mais c'est une recherche que tout le monde peut faire dans son jardin. C'est vraiment très très sympathique. Et ce bonhomme, avec qui j'avais évidemment beaucoup moins d'affinité qu'avec Rostand, parce que c'est un religieux. Donc c'est quand même un autre monde, une façon de dire, bon, de parler des créatures de Dieu et tout, qu'on ne retrouve pas chez Rostand, bien sûr.
Oui, on pourrait dire que Jean-Henri Fabre reste un éternel enfant émerveillé, alors que Jean Rostand, lui, justement, vous le décrivez comme un biologiste inquiet.
Ah ben, il se décrit lui-même comme ça, anxieux, oui, carrément. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il avait pris la tête du premier mouvement antinucléaire en France. Il était en tête de manif, il écrivait des choses, il déclamait. À ce moment-là, c'était le nucléaire militaire, c'était la bombe atomique. Donc aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, il est parti en guerre contre la guerre atomique. Mais avant sa mort, on avait déjà construit des centrales et il commençait aussi une bagarre sur le nucléaire civil de la même façon. Si vous voulez, il y a quelque chose d'étonnant dans cette histoire de nucléaire, c'est que souvent on décompte les morts, que les militants antinucléaires montrent les enfants qui naissent difformes, ce qui est tout à fait exact et dramatique, mais on oublie, et ça Rostand en avait parlé abondamment, mais on a oublié, c'est tout ce qui peut se transmettre à la descendance et qui n'est pas forcément très visible. C'est-à-dire que ce n'est pas du spectaculaire, mais c'est peut-être de l'irréversible qu'on inscrit dans l'espèce. Et c'est ça qui rendait Rostand complètement fou, quoi. Hors de lui. C'est qu'on était en train, on se donnait le droit de changer l'espèce sans rien maîtriser, puisque c'est évidemment au hasard des mutations. Et c'est une idée qui aujourd'hui n'est pas à la mode. On n'en parle pas beaucoup. On parle des accidents graves, des malformations, des morts immédiates, des brûlés, des... Bon. Mais on n'imagine pas que dans 3 siècles, il y a peut-être des enfants qui auront encore des séquelles des radiations d'aujourd'hui.
Alors justement, il a un regard assez critique d'ores et déjà sur la science. Il écrit notamment « Le savant n'a pas pour la vérité le respect que le public lui attribue. C'est attristant car on aimerait qu'un savant soit la vérité incarnée. » Et il écrit ailleurs notamment « La culture, ce n'est pas avoir un cerveau farci de dates, de noms ou de chiffres, c'est la qualité du jugement, l'exigence logique, l'appétit de la preuve, la notion de la complexité des choses et de l'arduité des problèmes. C'est l'habitude du doute, le discernement dans la méfiance, la certitude qu'on n'a jamais tout le vrai en partage, c'est refuser tous les fanatismes et jusqu'à ceux qui s'autorisent de la raison. »
Oui, ben ça c'est tout à fait Rostand, oui, et c'est tout à fait d'actualité. Depuis qu'on parle de complexité, qu'on s'interroge sur le sens, par exemple, de la recherche, pas tout le monde, hein, hélas, mais Rostand était déjà au-delà du principe de précaution, qui bien sûr, le principe de précaution est indispensable, mais il était déjà plutôt dans le principe responsabilité de Hans Jonas, parce qu'il ne s'interrogeait pas seulement sur la meilleure façon de faire quelque chose, mais sur pourquoi je le fais. Et pourquoi je cherche ça? Et donc, je crois que c'est beaucoup plus puissant et que c'est un enrichissement pour le scientifique d'avoir cette attitude et pas seulement de savoir manipuler des machines et des chiffres.
Vous avez publié notamment un ouvrage sur les conversations que vous avez eues avec lui qui s'intitule « Des grenouilles et des hommes ». Comment s'est passée cette rencontre?
C'est pas vraiment des conversations, c'est vrai. Ça s'appelle « Conversations avec Jean Rostand » au pluriel, mais en fait c'est des conversations inventées. J'ai rencontré Rostand, mais très peu, à la fin de sa vie. Et bon, il a été très affectueux, très bon, on s'est bien compris. Mais là, j'ai inventé quelque chose à partir de ce que je retenais de ce que j'avais lu quand j'étais jeune. Et j'imaginais, enfin, j'ai repris des citations de Rostand et je répondais et lui répondait à mes inquiétudes du moment. Donc, c'est des conversations inventées, mais qui auraient pu être possibles.
Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours et voir, Jacques Testard, comment vous êtes entré à l'INRA.
Ben, je suis rentré à l'INRA parce que j'étais déjà marqué dans la discipline agriculture. Et pourquoi j'étais dans la discipline agriculture? Parce que comme je disais, un peu passionné par la nature et tout ça, un peu comme sont les gamins aujourd'hui avec les ordinateurs. C'est exactement l'inverse, mais le résultat est un peu le même, c'est-à-dire qu'on y passe énormément de temps et qu'on oublie les autres choses et qu'on fabrique des cancres aussi, tellement les enfants passent du temps à des jeux sur l'ordinateur ou à correspondre ou à des choses un peu dérisoires. Je pense que la nature, c'est jamais dérisoire, donc c'était sûrement plus riche, mais c'est pas des choses qu'on compte à l'école. Donc je n'étais pas un élève excellent, je n'étais pas non plus très mauvais. Mais enfin, il se trouve que j'ai quitté le collège, le lycée en seconde, donc j'ai jamais passé le bac, et j'ai fait une école de jardinier. Bon, parce que les psychologues ont dit à mes parents que, vu mes goûts, parce que j'avais été interrogé, vu mes goûts pour la nature, ils m'ont dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « je veux être trappeur ». Ah bon, mais il n'y a pas d'école pour apprendre ça. Le plus près, c'est une école d'agriculture. Alors une école d'agriculture, bon, bah, j'ai fait ça. Et puis je me suis retrouvé avec un diplôme de jardinier dont j'avais pas tellement l'usage, parce que j'étais avec des fils de paysans et moi j'étais un citadin et j'avais pas de terre. Donc j'ai eu une petite angoisse à ce moment-là, quoi faire de ma vie, de mon temps. Et j'ai imaginé quand même, et on m'a un peu poussé, à faire un lycée agricole pour préparer une école d'ingénieur. Donc j'ai fait ça, mais j'ai pas passé le bac. J'ai jamais passé le bac, moi, donc j'ai pas échoué non plus. Et j'ai donc été obligé de faire une école d'ingénieur agricole qui n'exigeait pas le bac. C'était sur concours, comme sont les autres écoles, mais on n'était pas obligé d'avoir le bac. J'ai été reçu premier dans cette école, j'étais très fier, bon, ou à peine. Et il se trouve que c'était en Algérie, c'était à Maison Carrée. Ben voilà, j'ai fait cette école, et quand je suis sorti avec le diplôme d'ingénieur et juste à la fin de la guerre d'Algérie, très marqué par ce que j'avais pu voir là-bas. Je me suis retrouvé donc à Paris, j'ai fait un peu de fac.
En Algérie, vous étiez dans quelle ville ?
À Maison Carrée, c'est à 20 km d'Alger à peu près. Mais la guerre était en ville. Hein. J'allais à Alger quasiment tous les jours, puisque j'avais une copine qui est devenue ma femme après, qui habitait à Alger. J'allais dans sa famille tous les jours et je rentrais un peu après le couvre-feu. C'est vraiment une folie totale, mais bon, en stop, après le couvre-feu, il ne m'est rien arrivé, mais enfin j'ai vu des choses. Donc je suis revenu en France, je me suis inscrit à la fac.
Donc là, c'est en quelle année ?
On est en 62, quand je suis rentré, c'est à l'indépendance. Et je me suis inscrit en fac et en 64, j'ai commencé à travailler à l'INRA. Donc j'ai commencé à travailler parce qu'un prof que j'avais eu dans un certificat de sciences de reproduction à Paris, la boulevard Raspail, avait pensé que je pouvais être un bon élément. Il m'a proposé un contrat, qui était un contrat d'ingénieur à l'INRA en 64, sur le thème de la multiplication des vaches de haute qualité laitière. Et moi, bon, ce thème-là ou un autre, de toute façon, j'étais loin de la nature sauvage. Et j'avais pas un grand respect pour les vaches, parce que c'est quand même des bêtes assez... je sais qu'il y a un film maintenant, je suis pas allé le voir, mais j'irai peut-être. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant à voir aussi dans les bêtes domestiques, mais je sais pas, j'ai toujours eu une fascination pour le sauvage. Et quand on voit comment est fabriquée une vache aujourd'hui, ou une poule, ou n'importe quoi, de façon stéréotypée, avec un tas de techniques qui s'ajoutent à des techniques et de reproduction, d'alimentation, de conditions de température, de tout, on ne peut pas penser que cette bête-là garde encore de tout ce qui m'avait émerveillé, c'est-à-dire la surprise du naturel, toujours surprenant.
Vous dites bon, fabriquer d'ailleurs.
Fabriquer, oui. Donc, j'ai fait ce boulot-là tout seul, parce que c'était l'époque où un chercheur était un artisan. Aujourd'hui, vous avez des équipes où il y a facilement 10, 50, 100 personnes pour travailler à peu près sur le même sujet, chacun un petit point comme ça, mais en gros, c'est la même chose. Ils publient ensemble, et souvent avec d'autres équipes, françaises ou étrangères. Donc ça fait des masses d'auteurs, de contributeurs à un travail scientifique. On ne sait plus bien d'ailleurs qui a fait quoi. Mais à cette époque, on était artisans, donc j'étais tout seul. On avait peu de moyens, mais une grande liberté d'action. Simplement, comme là, j'avais un contrat avec Bruxelles, j'étais obligé de rendre des comptes de temps en temps. Mais enfin, on ne m'a pas beaucoup embêté. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. On était beaucoup plus libre quand même. Donc, ce qui était fixé, c'est qu'il fallait que je trouve un moyen pour multiplier assez vite les vaches de haute qualité génétique pour faire du lait. Et ce moyen, il avait été testé par d'autres avant moi dans le même labo. Ce moyen, ça avait été jusque-là de faire de la superovulation, c'est-à-dire d'injecter des hormones aux vaches pour qu'elles fassent plusieurs veaux. Bon, ce qu'on fait aussi chez les femmes, hein, et on peut faire chez toutes les femelles. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas le nombre de fœtus en développement, et que quand il y en a plus que deux, c'est assez catastrophique. Et chez les vaches, c'est pire encore que chez les femmes. Quand il y en a deux seulement et qui ne sont pas de même sexe, la femelle est masculinisée par le mâle. C'est un phénomène assez rare, mais chez les vaches, c'est classique. Tout à fait classique. Donc, ce n'est pas un bon coup de passer par là. Alors, moi, j'ai imaginé de commencer pareil, c'est-à-dire de stimuler les ovaires de ces vaches avec des hormones qu'on injectait et de récupérer les embryons qui étaient obtenus après insémination artificielle de cette vache avec un taureau de haute qualité génétique, c'est-à-dire un père de bonne laitière. Bon. Et on ne savait pas faire la fécondation in vitro à ce moment-là. Hein. Il fallait laisser faire la fécondation dans le corps, mais de laver l'utérus au bout de quelques jours après la fécondation pour récupérer ces embryons, les retrouver au microscope et puis les distribuer à raison de 1 par bête dans des receveuses, dans des vaches porteuses, qui étaient des génisses ordinaires, qui étaient supposées faire naître au bout de 9 mois un veau de haute qualité génétique. Donc c'était ça le projet que j'avais formulé, et puis ça a marché en 72. Donc il m'a fallu quand même 8 ans pour bricoler, avec, je vous dis, très peu de moyens. Je peux dire des crédits quasi insignifiants, des élastiques, des ressorts, des tubes en verre, des machins. Je faisais mes outils, je bricolais vraiment. Mais c'est assez jouissif en même temps de faire tout soi-même. C'est vraiment l'artisan qui est là et assez libre. Bon, simplement, quand ça a marché en 72, je me suis aperçu que c'était stupide. Et là, j'ai été très humilié parce que j'aurais dû me rendre compte en 64, quand j'ai commencé ce travail, que Bruxelles me donnait des moyens de travailler pour augmenter la production laitière, alors qu'en même temps, ils donnaient des aides pour la destruction du lait parce qu'on en avait trop. Il y avait comme une contradiction que je suis allé expliquer au directeur général de l'INRA, qui n'a pas beaucoup aimé, et qui m'a dit que je n'avais rien compris, qu'il ne s'agissait pas d'augmenter la production laitière, mais la productivité des vaches. Bon, j'ai compris après, j'ai mis un moment, parce que je n'étais pas familiarisé avec ce concept, que c'était l'idée qu'on pourrait avoir moins de vaches pour produire autant de lait, donc c'est une économie, et qu'on rentrait là-dedans. C'est là que j'ai appris des mots progressivement à partir de cette époque qui s'appliquaient à la recherche, mais qui s'appliquaient aussi à l'industrie et qui continuent de s'appliquer à la recherche et à l'industrie, qui sont productivité, compétitivité. Compétitivité, pour moi, c'est le mot insupportable, le plus horrible de la langue française. Je ne parle pas de la sonorité, mais du sens. Parce que la compétition, c'est de mettre en guerre des individus avec d'autres. Alors ça peut être des vaches pour produire du lait, ça peut être des chercheurs, ça peut être des ouvriers, ça peut être... Bon. Mais c'est toute une notion, une conception des rapports dans la société qui est absolument monstrueuse et qui n'est pas obligatoire. C'est à partir de là qu'on peut inventer le néolibéralisme, tout ce qui va avec, les licenciements abusifs. Bon, et pourquoi être en compétition ? Pourquoi on ne pourrait pas, au contraire, arriver à vivre dans la convivialité, quoi ? Donc, tout ça me choquait beaucoup. J'ai quitté l'INRA parce que, d'abord, je ne dépendais pas de l'INRA à ce moment-là. Je dépendais de l'université de Paris 7. J'étais enseignant et je faisais ma recherche à l'INRA. Et je pouvais donc me transporter, en continuant de faire mon enseignement au même endroit, à Jussieu, je pouvais me transporter dans un autre laboratoire. Et j'ai été sollicité par l'hôpital Béclair, où le chef de service de gynécologie obstétrique, qui s'appelait Émile Papernic, avait travaillé un peu dans le labo à côté du mien pour faire un DEA de sciences. Et on était assez amis. Et donc, il m'a demandé de venir à l'hôpital parce qu'il avait l'ambition de créer un petit labo de recherche sur la reproduction humaine, où il n'y avait absolument rien. Là, j'ai été effaré tout de suite. Bon, j'ai accepté parce que pour moi, c'était s'échapper d'un milieu... où vraiment, je pourrais en parler plus longuement, mais c'était assez pénible, les rapports avec, y compris avec les professionnels, avec les maquignons, puisque je faisais le tour des coopératives d'élevage avec mes outils pour faire mon numéro de comment on récupère les embryons, comment on les transplante. Et je voyais bien ces gens derrière qui se disaient combien de fric on va gagner avec ce type-là, quoi. Et donc, ce qui m'a frappé dans le monde gynécologique, ça a été la carence de connaissances sur la physiologie normale. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent beaucoup de choses sur les kystes, le machin. Il y a du pus, ça coule, la femme ovule pas. Mais quand le normal, ils connaissent pas. Ce qui est embêtant quand on commence à s'intéresser aux pathologiques si on ne connaît pas la physiologie normale. Et ils ne connaissaient pas, parce qu'il y a une espèce de mépris de tous les travaux qui sont faits chez l'animal. Et bien évidemment, sur l'humain, on ne fait pas des expériences, on fait pas. C'est seulement sur l'animal qu'on peut apprendre vraiment des choses sur la physiologie. Donc ils ne connaissaient pas, et bon, bah, j'ai commencé par travailler sur des prélèvements qui tombaient du bloc opératoire, des morceaux d'ovaires qui chutaient, et au lieu d'aller dans la poubelle, ils arrivaient dans mon labo. Et j'essayais de faire là-dessus des cultures de cellules, de comprendre comment un ovocyte devient un ovule, qu'est-ce que c'est que la maturité du gamète féminin. En même temps, je travaillais un peu sur des souris et des lapins quand même. Et est arrivée la nouvelle en 78 que des Anglais, qui s'appelaient, donc c'était Edwards essentiellement, le biologiste, attendaient une naissance par fécondation in vitro humaine. Ça a fait déjà du bruit avant même la naissance, dans le milieu au moins où j'étais. Et je me souviens que mon ex-patron de l'INRA, Charles Thibault, qui était le spécialiste français de la reproduction des mammifères, nous avait dit que c'était pipeau, quoi, que c'était certainement faux, il n'était pas du tout content. Bref, ça s'est avéré exact, puisqu'on a pu le refaire des milliers de fois, donc c'était vrai. Et les gynécologues m'ont demandé de m'y mettre, de travailler là-dessus. Alors là, c'est drôle parce que j'ai fait ça sans enthousiasme. J'ai pris cette décision sans enthousiasme. Parce que, d'abord, j'y croyais pas trop, puisque mon ex-patron disait que c'était pas vrai. Bon, je trouvais ça assez rigolo, et puisqu'il me le demandait, pourquoi pas. Et à partir du moment où je fais quelque chose, je le fais complètement. Donc je me suis mis à travailler comme une bête. Et les Anglais ne nous ont pas donné leurs recettes, surtout. Ils les ont données à personne, ils les ont pas publiées. Donc il a fallu refaire tout ce qu'ils avaient fait en 15 ans, le refaire en quelques années. Bon, en 82, on a donc eu le premier bébé éprouvette.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Lydia Benitzak rencontre Jacques Testard. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Laurent Lucas. Réalisation, Manouchak Fachaï. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Lydia Benitzak avec Jacques Testard.